Be Curious, Get Nervous, odeur de tabac froid, vinyle et gramophone à gogo.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Soyez curieux, restez révoltés et toujours en musique.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
La chronique de Maëlle sur Divergence.
Hello tout le monde! Le top départ du baccalauréat 2025 a été lancé ce lundi 16 juin. On souhaite donc un bon courage à tous les bacheliers et également un joyeux Hunger Games pour trouver votre futur appartement étudiant. Je suis passée par là, je compatis et je vous envoie vraiment toute ma force mentale. Comme c'est de tradition, le bac commence toujours par l'épreuve de philosophie. Cette année encore, les terminales ont pu réfléchir sur des sujets tels que « la vérité est-elle toujours convaincante ?» ou bien « sommes-nous libres en toutes circonstances ?» On retrouve toujours plus ou moins les mêmes thèmes, la science, le travail, le spécisme. Mais moi, il y a deux thèmes que j'ai toujours bien aimés, c'est la vérité et la justice. Ben ouais, en tant que futur journaliste, c'est important pour moi de s'interroger sur le réel, les faits, mais aussi la morale. Un journaliste, ça a pour rôle de relayer des faits, de les contextualiser et potentiellement d'en apporter une analyse pour aider les gens à comprendre ce qu'il se passe. On appelle ça la déontologie. D-E-O-N-T-O-L-O-G-I-E. L'ensemble des règles qui régissent une profession. La déontologie, elle permet d'assurer au public la sincérité de la démarche, la qualité des informations, la transparence. Et en ce moment, surtout avec la guerre qui fait rage au Moyen-Orient, l'escalade entre Israël et l'Iran et la propagande qui circule de tous les côtés, on a besoin de cette déontologie journalistique, on a besoin de médias fiables. Alors nul doute que l'intégralité des journalistes s'applique à expliquer avec rigueur la monstruosité des actes de l'État génocidaire qu'est Israël.
Nous sommes tous israéliens. Voici ce que j'ai envie de dire ce matin.
Allez, et après on s'étonne de la montée de l'extrême droite. Non, en fait on s'étonne même pas, ça perturbe pas grand monde. Bon après Pascal Praud c'est pas un exemple de rigueur journalistique. On va aller sur un autre média. Tenez BFM, ils ont dû inviter des experts pour décrypter un petit peu la situation, c'est leur spécialité.
C'est ce qu'a dit le Premier ministre, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Toutes les femmes et les hommes libres du monde devraient dire merci à Israël.
Bon... Alors le couplet « Il n'y a pas de raison de ne pas croire Netanyahou », ben si en fait. Là comme ça, il m'en vient au moins 30 des bonnes raisons de ne pas croire Netanyahou. Reprendre des éléments de langage propagandiste émanant d'un état génocidaire, c'est pas ce que j'appelle relayer de l'information. Relayer de l'information, c'est contextualiser, analyser, pas recracher bêtement des phrases toutes faites auxquelles on ne comprend rien. Vous imaginez un petit peu si les médias faisaient ça pour tous les faits qui se passent à l'étranger ? Adolf Hitler ne commet pas de génocide juif et tzigane, explique Goebbels depuis Berlin. La hausse des voyages en train de ces populations n'est qu'un hasard de calendrier. Ou encore, Vladimir Poutine se défend d'une quelconque invasion ukrainienne, affirmant qu'il s'agit simplement d'une visite guidée de Kiev. Tout de suite, ça choquerait un petit peu plus. Mais dès qu'il s'agit de tuer des Arabes, on ne prend plus trop la peine de vérifier les infos. Pire, on assiste depuis quelques jours à une hypocrisie sans nom de nos chers médias de milliardaires. Au moins 55 000 morts palestiniens depuis le 7 octobre 2023 ? Ouais, mais on va plutôt parler des trois frères musulmans qui menacent la République française. 24 morts israéliens après la réponse iranienne. Flash info, tout le monde s'arrête que personne ne bouge. Envoyés spéciaux, experts, ambassadeurs israéliens sur le plateau, et on s'émeut des pauvres civils apeurés par le bruit des bombes.
Si j'étais Khamenei, c'est comme ça que je le prendrais.
Et qu'est-ce qu'il attend de lui ?
De ne pas tirer sur nos civils, de ne pas toucher nos civils, de ne pas tirer massivement comme il le fait jusqu'à présent sur nos civils.
Alors c'est vraiment très bien de s'inquiéter de la répercussion des crises de Benjamin Netanyahou sur des civils innocents. Vraiment, c'est hyper important. Je ne le répéterai jamais assez, les civils doivent à tout prix être épargnés de la guerre. Donc c'est bien, très très bien même. Mais monsieur l'ambassadeur, vous en faites quoi des civils palestiniens que votre gouvernement pulvérise chaque jour et chaque nuit à coups de bombe ? Et chers collègues journalistes, vous étiez où quand Israël a assassiné sans sourciller 15 000 enfants et 39 000 citoyens innocents ? Ah bah non, là on parlait de dommages collatéraux, de complices du Hamas, de pertes humaines dommageables. Les Palestiniens, on s'en carre le cul. Par contre, quand Israël se mange un retour de bâton, le monde s'arrête de tourner. Selon un rapport d'arrêt sur image daté du 16 février 2024 et basé sur une analyse de 49 journaux télévisés conjoints de TF1 et France 2, seules 29 secondes ont été consacrées au sort des Palestiniens. 5 secondes pour TF1, 10 secondes pour M6 et 14 secondes pour France 2. Et pour ces mêmes JT, le temps d'antenne consacré aux otages israéliens et israéliennes s'élevait déjà à 26 minutes. 14 secondes pour les Palestiniens, 26 minutes pour les Israéliens. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu de la gravité de ce traitement médiatique ? J'ai toujours pensé que le monde se serait soulevé pour stopper le génocide juif si les gens avaient su ce qui se passait à l'époque. Mais là, un génocide en live sur les réseaux sociaux et personne ne bouge. On dit que l'enfer c'est les autres, et je commence un petit peu à y croire. Je ne savais pas que la gravité du sort des civils dépendait de l'origine et de la couleur de peau. On m'a pas appris ça à l'école, et on m'a certainement pas appris ça en cours de déontologie. Niveau réaction politique aussi, on n'est à nouveau pas surpris par l'innommable hypocrisie de nos dirigeants.
Nous soutenons la sécurité d'Israël, et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël.
On entend le même couplet qu'au lendemain des premières frappes israéliennes à Gaza, droit inconditionnel à se défendre, nous témoignons notre soutien à Israël, la France se place aux côtés du peuple israélien.
Et Israël a le droit de se protéger et d'en finir avec cette menace nucléaire.
Israël a le droit de se protéger, oui, comme n'importe quel État, mais le droit de se défendre, ça n'implique pas de génocider un peuple, ça n'implique pas de bombarder à l'aveugle des écoles, des hôpitaux et des maisons, ça n'implique pas de violer le droit international, ça n'implique pas de transgresser les lois, d'empêcher l'aide humanitaire d'arriver jusqu'à la bande de Gaza, ça n'implique pas d'emprisonner des journalistes, des politiques et des activistes qui tentent comme ils le peuvent de venir en aide aux civils palestiniens en danger de mort. Benyamin Netanyahou est sous mandat d'arrêt international. Ça signifie qu'il doit être arrêté pour être jugé pour ses crimes, sitôt qu'il sort de son état. Mais non, tranquille, la France le laisse survoler le pays par deux reprises, et alors pompon sur la Garonne, la Grèce lui offre le gîte et le couvert quand ce lâche fuit Israël qui est bombardé par l'Iran. La France et la Grèce sont pourtant signataires du traité de Rome qui leur impose de procéder à son arrestation sitôt qu'ils posent une fesse sur leur terre. Mais ça, Manu et Tassoulas l'ont sans doute zappé.
Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective.
Reprenons un petit peu ce fil d'actualité. Vendredi 13 juin, Israël a attaqué l'Iran à coups de bombe. Vise un petit peu Pascal, c'est quand même pas compliqué de formuler une phrase simple et de relater des faits. Et donc, pourquoi Israël a attaqué l'Iran ? En gros, Israël affirme avoir de sérieuses preuves de croire que l'Iran était sur le point de se doter de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est-à-dire les bombes atomiques. Du même acabit que les bombes qui ont bousillé Hiroshima, Nagasaki et leurs habitants en 1945, mais disons entre 50 et 3000 fois plus puissantes selon les modèles. Bon, autant dire que c'est pas trop souhaitable qu'on lâche un truc pareil où que ce soit. Et c'est bien pour ça qu'en 1968, 191 États ont signé un traité de non-prolifération nucléaire. En gros, tous ces pays se sont engagés à ne pas acquérir l'arme nucléaire. Et pour ceux qui l'avaient déjà, à ne pas transmettre l'arme nucléaire aux États qui n'en ont pas, et surtout à empêcher les autres États de s'en doter. Les États-Unis avaient d'ailleurs justifié en partie leur invasion de l'Irak en 2003 sur la base de ce traité de non-prolifération, en affirmant avoir des preuves de possession de l'arme atomique par l'Irak. Bon, c'était du pipeau, maintenant on le sait, mais à l'époque c'était l'argument. Mais dites-moi, ça me rappelle un peu quelque chose. Ce serait pas exactement le même argumentaire qu'a employé Israël, qui parle de frappe préventive ? La guerre préventive, on relance le débat ou pas ? Je soupçonne mon voisin d'être une menace, donc j'attaque en premier ? Ben non, Benyamin, c'est interdit par le droit international, mais visiblement tu t'en carres le cul autant que de l'interdiction de génocide. C'est d'autant plus culotté qu'Israël s'est procuré illégalement l'arme nucléaire avec le soutien de la France en 1967. Comme ça, en soum-soum. Et maintenant, ça veut jouer les justiciers antinucléaires. Et la France a double, et les médias applaudissent. Ce que nous a montré cette nouvelle offensive israélienne, c'est que Tsahal est capable de viser. On a vu circuler les photos montrant les immeubles des personnes ciblées par Israël, des chercheurs et des politiciens entre autres. Et oh surprise, pas besoin de souffler un quartier entier en décimant toute sa population pour atteindre un individu très précis. Quid maintenant de la rhétorique ? On voulait pas tuer tous les patients de cet hôpital, mais un dirigeant du Hamas s'y cachait. Dis donc Tsahal, le compas dans l'œil c'est quand ça va dans ton sens, hein ? Vous l'aurez sans doute compris au son de ma voix, je suis écœurée par l'hypocrisie politique et médiatique. On adoube un régime génocidaire. On ferme les yeux sur les 1000 violations du droit international. On essaie de passer en soum-soum des armes à cet état coupable de crimes contre l'humanité. Tout ça parce que, bah en fait, je sais pas trop. Est-ce que c'est la culpabilité historique de l'Occident qui a participé au génocide juif exécuté par Hitler ? Est-ce que c'est la culpabilité historique d'avoir provoqué la guerre il y a 80 ans en partageant arbitrairement la Palestine entre les Palestiniens et les Israéliens ? Est-ce que c'est l'islamophobie et la xénophobie du monde occidental qui permet de fermer les yeux sur la mort de milliers d'innocents ? Et pire, d'en faire complaisance. Un génocide n'en excuse pas un autre, et c'est la honte de penser le contraire. À l'heure où Sternin rachète les médias pour influencer l'opinion publique en faveur de l'extrême droite, à l'heure où le service public invite tranquillou bilou des agents immobiliers pour causer de la viabilité économique d'une station balnéaire future alors que les corps des Palestiniens innocents sont encore chauds, écoutez les historiens, écoutez les chercheurs, écoutez les spécialistes, comme Bertrand Badi par exemple, qui pose les termes sur la table quand les journalistes et nos représentants politiques ne sont pas foutus de le faire.
On en est officiellement à 55 000 morts en Israël, et il n'y a pas l'ombre d'une sanction. alors qu'on est au 17e paquet de sanctions pour la Russie, que l'Iran est complètement étranglé, la société iranienne est complètement étranglée par les sanctions.
Et des poursuites de la Cour pénale internationale tout de même.
Et, oui, d'accord, mais on nous explique que de toute façon, on n'en tiendra pas compte. Donc, effectivement, on est dans une logique d'impunité et c'est ça qui est dangereux.
Et aussi, mais surtout, branchez-vous médias indépendants. Des médias qui posent les termes, des médias qui rapportent les faits, des médias dont l'avis ne dépend pas d'un chèque grassement signé par un milliardaire, des médias qui connaissent le sens du mot déontologie, des médias qui se bougent le cul.
Vu la faillite morale et politique en face, la ligne de Blast, contrairement à ce que crachent tous les baveux et les jaloux, n'est inféodée à personne. Dans un pays où Léa Salamé ou Christophe Barbier, pour n'en citer que deux, passent pour des journalistes indépendants, dans ce même pays où des propagandistes complices du génocide comme Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, ou tous les Pascal Pro de CNews, tous ces journalistes cités sont au service de milliardaires pour qui l'information n'est qu'un outil d'influence et de commerce. Ils donnent des leçons de journalisme en permanence sur tous les écrans. Le traitement médiatique de Gaza est une fois de plus un énorme révélateur. Ils sont des propagandistes, des falsificateurs et des arnaqueurs. Ce sont eux les militants, pas nous.
Alors branchez-vous Blast, branchez-vous Le Média, branchez-vous Mediapart et branchez-vous Divergence. Faites preuve de bon sens et s'il vous plaît, ne fermez pas les yeux. Be curious, get nervous, odeur de tabac froid, vinyle et gramophone à gogo.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Soyez curieux, restez révoltés et toujours en musique.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
La chronique de Maëlle sur Divergence.